Marvin Opportun Boudagaï, bonjour.
Bonjour Inès.
Patrice Edouard Ngaïsona a été arrêté le 12 décembre dernier à Paris et transféré à la Cour pénale internationale. Dites-nous quelles sont les principales raisons de son arrestation.
Merci pour votre question. La chambre préliminaire de la Cour pénale internationale était convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un conflit armé ne présentant pas un caractère international était en cours sur le territoire de la République centrafricaine entre au moins septembre 2013 et au mois de décembre 2014, entre la Silica et les Antibalaka. Dans le cadre de ces conflits, M. Ngaïsona, en tant que le plus haut dirigeant et coordonnateur général national des Antibalaka, serait responsable des crimes suivants prétendument commis des différents endroits en République centrafricaine, notamment à Bangui, dans la préfecture de la Lobaï, Yaloké, vers Gaga, Bosemtele, Boda, Karno, Berberati, entre le 5 décembre 2013 et au mois de décembre 2014. Il est donc accusé de chef de crime grave, crime contre l'humanité et crime de guerre.
Est-ce dire que M. Ngaïsona est donc considéré comme le responsable numéro 1 de tous les anti-Balaka qui ont commis des exactions dans le pays?
Je voudrais préciser qu'en ce moment, M. Edouard Ngaïsona est considéré comme un suspect. Donc, il est suspecté d'être le haut responsable, donc responsable également de tous les crimes qu'ils auraient commis en République centrafricaine. Pour le moment, on l'appelle suspect. Il n'est pas accusé parce qu'il faudrait passer par l'épreuve ou bien la procédure de l'audience de confirmation des charges pour qu'il devienne un accusé devant la Cour pénale internationale.
Alors, depuis quand un mandat d'arrêt a-t-il été lancé contre lui?
Oui, le mandat d'arrêt a été lancé justement le 7 décembre parce que les autorités de la Cour pénale internationale se sont rendues compte justement que M. Edouard Ngaïsona se trouvait en ce moment-là en France, en transit certes, et que vu que la France est état partie à la Cour pénale internationale, cet état devrait rendre son devoir de coopération avec la Cour pénale internationale. Donc c'est grâce à la coopération avec les autorités françaises que M. Edouard Ngaïsona a été arrêté justement à Paris.
Et à ce moment-là, Patrice Edouard Ngaïsona, il était informé de ce mandat d'arrêt contre lui?
Non, je précise qu'il n'avait pas été informé avant son arrestation, mais après son arrestation. Vous le savez tous comme moi, Inès, si quelqu'un est averti avant son arrestation, je crois qu'il ferait beaucoup d'attention pour ne pas se déplacer dans certains pays. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici les mandats d'arrêt sous scellé, c'est-à-dire des mandats d'arrêt qui sont déjà délivré par les juges de la Cour pénale internationale, mais qui attendent ce qu'on appelle des opportunités d'arrestation.
Alors, en parlant des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, quelles sont les procédures concernant l'émission d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale?
Pour qu'il y ait un mandat d'arrêt, c'est d'abord le procureur de la Cour pénale internationale. Pour le moment, c'est Mme Fatou Bensouda. C'est elle qui est chargée d'enquêter. Et une fois qu'elle a rassemblé des preuves suffisantes concernant une personne, c'est elle qui apporte ces preuves-là devant les juges de la Cour pénale internationale. Et il faudra encore qu'elle parvienne à convaincre les juges de la Cour pénale internationale que ces preuves qui sont à sa possession méritent l'arrestation de la personne. C'est en ce moment que les juges de la Cour pénale internationale peuvent émettre un mandat d'arrêt. Il y a deux types de mandats d'arrêt. Il y a des mandats d'arrêt sous scellé et des mandats d'arrêt publics. Et dans la plus grande majorité de temps, les juges émettent des mandats d'arrêt sous scellé en attendant l'opportunité d'arrestation.
Donc, ce qui veut dire à ce moment-là, il y a plusieurs mandats d'arrêt sous scellé.
C'est possible. C'est une possibilité. Et il y a aussi des mandats d'arrêt publics. Par exemple, le cas de certaines personnes dont la Cour est convaincue qu'il fallait nécessairement rendre public ce mandat d'arrêt. Là, il appartient encore une fois de plus au juge de juger la nécessité et voilà, de lancer un mandat d'arrêt public.
Gervin Opportun Boudagaï, dites-nous, de nombreux Centrafricains s'interrogent pourquoi l'on assiste seulement aux arrestations des leaders anti-Balaka et non des Silika qui commettent encore des exactions graves dans le pays. Qu'en dites-vous par rapport à cela?
Nous sommes dans une procédure de justice. Oui, la logique, c'est que le Centrafricain lambda attend, c'est que dans les deux camps, il y ait des arrestations au même moment. Mais cependant, en justice et dans une procédure judiciaire, c'est pas le cas. La situation, c'est qu'il faudrait nécessairement que les enquêtes apportent des preuves nécessaires concernant des personnes qui seraient suspectées d'avoir orchestré, d'avoir commis ou bien d'avoir diriger des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Et après, il faudrait que Madame le procureur parvienne à prélever les preuves nécessaires pour pouvoir convaincre les juges de la possibilité de lancer un mandat d'arrêt. Et je voudrais profiter justement de votre antenne pour préciser que les enquêtes de la Cour pénale internationale concernant les crimes graves depuis 2012, ces enquêtes-là sont divisées en deux parties. Il y a une équipe du bureau du procureur qui est chargée des enquêtes pour des crimes graves commis par les Séléka. Il y a une autre équipe qui est chargée de mener des enquêtes concernant les crimes qui sont commis par des anti-Balaka. Donc, ces deux équipes-là travaillent avec les mêmes moyens et normalement pour aboutir au même résultat.
Le dossier de Patrice-Édouard Ngaïsona avait été retenu lors de la première session criminelle 2017 de Bangui, mais il n'a pas été traité à ce moment-là. Est-ce dire que la CPI avait-elle déjà saisi les autorités centrafricaines concernant son dossier?
Je n'ai aucune information concernant cette situation, mais comme vous le savez, la Cour pénale internationale travaille de manière indépendante. Et je profite justement de cette occasion pour remercier justement les autorités centrafricaines pour leur coopération et pour pouvoir laisser justement l'indépendance à la Cour pénale internationale de faire son travail comme il le faut. Et une fois de plus, je voudrais également par là répondre à certaines personnes qui pensent que c'est les autorités centrafricaines qui donnent des noms à la Cour pénale internationale. Non, non et non. Les autorités centrafricaines, certes, en matière de coopération, c'est un devoir du gouvernement centrafricain, par la suite justement de la ratification du statut de Rome, la République centrafricaine étant état partie, devrait coopérer avec la Cour pénale internationale en ce qui concerne l'extradition des suspects à la Cour pénale internationale.
Alors, à quand la première comparution de Patrice-Édouard Ngaïsona devant les juges de la chambre préliminaire 2, comme le cas avec l'affaire Alfred Gikatom en Rombo?
Pour le moment, nous n'avons pas une date fixe. Mais dès que nous l'aurons, nous ne manquerons pas de vous communiquer cette date-là. Il y a certainement des détails logistiques à gérer. Et vous savez, lors de cette audience de première comparution, il faudrait nécessairement vérifier un certain nombre de détails avec le suspect avant justement d'annoncer une date. Vous savez également que aujourd'hui, Monsieur Édouard Ngaïsona est un suspect devant la Cour pénale internationale et ce suspect également a ses droits, les droits d'avoir une défense, le droit de choisir un avocat vraiment de son choix pour pouvoir le défendre. Donc, il a droit de se défendre lors de l'audience de confirmation de charges.
Est-ce que la Cour pénale internationale va jumeler les dossiers Rombo et Ngaïsona?
Oui, c'est une autre question vraiment pertinente, mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse claire à ce sujet et la réponse normalement viendra des juges. Ce sont les juges de la Cour pénale internationale qui nous dira est-ce que l'affaire Yekatom et Ngaïsona pourraient être jointes ou pas. Donc, nous attendons justement cette réponse et certainement avant l'audience de confirmation des charges.
Donc, c'est une possibilité?
Oui, c'est une possibilité.
Ok, d'accord. Alors, pour en terminer avec vous, après Rombo et Ngaïsona, quels sont les autres présumés auteurs de crimes qui sont dans le viseur de la Cour pénale internationale?
Inès, je ne pourrais pas apporter justement une réponse nette à cette question. Comme je le disais tantôt, je ne travaille pas pour le bureau du procureur qui est chargé de mener des enquêtes. Et même si j'étais chargé de communication du bureau du procureur, je crois que je ne pourrais pas citer les noms des personnes qui seraient dans le viseur de la Cour pénale internationale après Hécatombe et Ngaïsona. Sinon, ces personnes-là vont prendre la fuite le plus loin possible et que je ne pourrais pas avoir la possibilité de l'arrêter.
Gervain Opportun Boudagaï, merci beaucoup.
Merci.